Chapitre 1. Le repère du diable. Devant le bar sport, Rory savoure une bière fraîche dans la tranquillité solennelle du samedi matin. Désormais, la crise économique n'épargne personne, même pas les endroits les plus fréquentés, et pourtant ce bar décrépit est encore debout. 3 ans ont passé depuis qu'il a mis les pieds pour la première fois dans ce qu'on appelle le paradis. Arrivé directement de la favela où il est né. Lemos de Brito, périphérie de Rio, avec dans ses poches les derniers sous qui lui restaient. L'argent qu'il avait caché dans une boîte à cigares sous l'arbre de la pivoleuse, dans la cachette du diable. Plus de 50 000 reals. Un patrimoine. Et pourtant, dans ce minuscule pays au cœur de l'Europe, Rory n'était qu'un pauvre. Parce que c'est un paradis seulement pour ceux qui ont de l'argent, du pouvoir et les bons contacts. Il n'a donc pas pu faire autrement que de suivre la voie habituelle, celle du crime. Mais grâce à son talent, il a rapidement réussi à s'introduire dans certains trafics et connaît désormais tous les différents groupes de son domaine. Des clients de toutes sortes et naturellement, les flics et leurs secrets. Les politiciens, les fonctionnaires et même les juges n'hésitent jamais à accepter une enveloppe pleine d'argent pour fermer les yeux. Il ne s'intéresse pas à savoir si ceux qui font affaire avec lui sont riches, puissants, dangereux ou des gens ordinaires. Ce qui lui importe, c'est de gagner de l'argent. Celui qui a de l'argent en main est le bienvenu, c'est son client. Par un ami dans la police, il a appris qu'on l'a surnommé ici aussi El Urasao, le grand voleur volant, ou plus simplement Ura. Il se fiche d'être mis sous surveillance étroite, au contraire, cela le rend encore plus fier. Son ami s'appelle Gregor Rossi et il est le chef de la police de la ville. Le jour, il fait son travail. Il est très respecté par les gens. La nuit, il est l'un de ses nombreux clients. Un des squelettes, comme il les appelle, qui vivent une vie secrète dans l'obscurité de la fosse locarnaise. Rory connaît bien leur sale jeu et ils ne peuvent plus le toucher désormais, car s'il tombe, c'est la moitié du pays qui tombe avec lui. Survivre dans les favelas de Rio l'a rendu véritablement homme. Les années passées dans le milieu de la drogue l'ont préparé à être un chef. Les flics ici ne sont que des pantins, des ballons gonflés. Les enfants des favelas sont plus malins que tous les flics du paradis. Beaucoup, dès l'âge de 6 ans, perdent toute peur en devenant des courriers pour les trafiquants. Rory en faisait aussi partie. À 8 ans, il connaissait déjà tout de ce labyrinthe de ruelles étroites et de rues dangereuses et sans nom. Il se souvient encore des odeurs qui émanaient de la boue, utilisée pour construire les maisons. La puanteur acide exhalée sous la chaleur des décharges. Mais aussi les parfums des plats que de nombreuses cuisinières, avec l'habileté de véritables artistes, parvenaient à préparer à partir de rien pour nourrir leurs enfants. Car dans les favelas, beaucoup naissent et beaucoup meurent vite pour faire place aux suivants. Il se souvient de l'odeur des détergents mélangés aux excréments et à l'urine qui coulaient dans des tuyaux ou des canaux improvisés pour ensuite se rassembler dans des trous autour des maisons construites plus bas. Les eaux usées de toutes sortes formaient des ruisseaux au milieu des petites rues. Les pauvres des favelas n'ont pas droit à une longue vie mais leur vie a un prix. Leur bref voyage se termine dans les fosses qui remplissent les cimetières sur les collines. Des fosses creusées et utilisées plusieurs fois, souvent sans pierre tombale ni même une croix. Seul le vent venant de la mer, fort et salé, siffle en rappelant les noms de ses morts. À Lemos de Brito, les gens sont pauvres mais rient souvent. Même dans la misère, ils profitent de chaque occasion pour faire la fête, danser et donner vie aux guitares et aux tambourins qu'on trouve presque dans chaque maison. Ils savourent ce peu de douceur qui reste dans l'amertume de leur destin. Ceux qui ont un travail se sentent heureux et s'efforcent chaque jour de ne pas tomber dans les pièges qui y sont cachés partout. Les plus chanceux trouvent un emploi en ville, ils travaillent comme domestiques dans les quartiers aisés de la classe moyenne ou riches qui peuvent se le permettre. Ou bien, ils travaillent comme maçons, charpentiers, vitriers, tailleurs ou font toutes sortes de travaux manuels. D'autres fabriquent des outils ou des choses nécessaires pour construire des maisons et des cabanes. Des montagnes de briques, faites avec de la boue, attendent de devenir les murs de nouvelles maisons, avec des montagnes d'objets en métal, en verre et d'autres matériaux, extraits des décharges qui entourent la ville. Mais beaucoup se tournent vers la criminalité. Ils trafiquent de la drogue et des armes, produisent des boissons alcoolisées fortes, souvent toxiques. Dans les favelas, on trouve de tout, y compris la criminalité du pire genre, des mercenaires prêts à tuer pour quelques réals. Parce qu'ici, la criminalité est un cancer malin qui prospère abondamment. Roré est né dans la pire zone de la favela, dans la seule pièce de la maison de sa grand-mère, morte depuis longtemps à cause du sida. Il n'a pas connu son père, sa mère n'a jamais prononcé même son nom. Comme tant de femmes restées seules, elle vendait son corps pour gagner un peu d'argent. Juste assez pour ne pas mourir de faim. Roré était plus malin que ses camarades, et elle l'envoyait dans la rue pour voler quelques réals là où il le pouvait. Il trouvait toujours de nouveaux stratagèmes pour ses vols et errait souvent sur la place de l'artisan, qui, avec ses constructions de style portugais, attirait de nombreux touristes faciles à voler. Et c'est là qu'un jour, il fit une rencontre étrange, avec un oiseau qu'il n'avait jamais vu auparavant. Tout noir mais avec le ventre blanc, des taches blanches sur les flancs et les ailes et une très longue queue. C'était une pie voleuse, comme lui dit ensuite le coiffeur qui avait son salon sur cette place. Cet oiseau volait bas et passa juste devant Roré avant d'aller se poser sur le toit d'une vieille maison donnant sur la place. L'enfant le regardait curieusement. Il semblait viser un groupe de touristes, tout comme lui. Il fixait une femme aux cheveux blonds au fond du groupe. Des boucles d'oreilles précieuses se balançaient en brillant sous le soleil. Roré les observait en se préparant à la voler. Mais l'oiseau les surveillait aussi. La blonde ne se rendait pas compte des nombreux yeux misérables et affamés qui la regardaient, même d'en haut. C'était le bon moment. Roré s'approcha rapidement par derrière, mais juste au moment où il tendait la main pour saisir l'une des boucles d'oreilles, cet oiseau bâtard plongea du toit en réclamant son butin avec un cri. Roré s'arrêta net, effrayé par ce cri inattendu. La femme aussi s'était arrêtée. Ensuite, tout se passa très vite. L'oiseau visa précisément la boucle d'oreille droite et la déchira douloureusement du lobe, sans interrompre son vol. Personne ne semblait l'avoir remarqué. Sauf le coiffeur, qui était justement en train de fumer une cigarette devant son salon. Les touristes, eux, ne virent que Roré avec le bras encore levé et cette femme qui criait en se tenant l'oreille ensanglantée. Roré fixait la pie qui s'envolait. Tout était clair pour les touristes, qui encerclaient cet enfant aux cheveux sales, aux vêtements déchirés, aux yeux sombres et rusés. La femme semblait folle de rage et voulait l'attraper. Elle criait « Voleur, bâtard, arrêtez-le !» Roré, quant à lui, la regardait avec innocence, paralysé par le danger. Puis, il entendit la voix du barbier qui criait « Petit, fuis !» Alors, il se retourna brusquement et courut dans l'une des nombreuses ruelles qui débouchaient sur la place. La même où il avait vu s'engouffrer la pie, avec son butin dans le bec. Il la voyait encore là-haut. Mais il devait maintenant penser seulement à se cacher. Il regarda derrière lui, entendant les touristes continuer à crier. « Attrapez-le! Attrapez ce bâtard! Attrapez-le !» Puis il perdit de vue cet oiseau plus rusé que lui. Le barbier, immobile à la porte de son salon, fumait et profitait du spectacle. Le lendemain, Roré vola deux radios et quelques objets brillants. Des perles en verre et des leurres pour la pêche. Le barbier lui avait expliqué que cet oiseau, la pie voleuse, est ainsi nommé, justement parce qu'il a l'habitude de voler les choses qui scintillent. Et ainsi, Roré décida qu'il voulait la berner. Son ami Raphaël, d'accord avec lui, s'était assis à une table sur la place de l'artisan, éparpillant devant lui toutes ces choses volées. Comme s'il sentait un appel, Lapie revint et se posa confortablement sur le toit de la même maison. Elle avait déjà repéré ce qu'elle pouvait voler aujourd'hui. Elle fixait ses billes de verre et les leurs. Rory imaginait que les reflets de la lumière sur la surface de ces objets étaient très attrayants pour elle. Rory fit signe à son ami de se déplacer, laissant la table libre pour encourager Lapie à s'approcher. Entre-temps, il se tenait prêt à lui courir après. Cet oiseau était malin, mais Rory l'était encore plus. Lapie, comme prévu, se lança sur la table comme un kamikaze. Elle attrapa au vol l'une des billes et s'enfuit immédiatement, dans la même direction que la première fois. Rory la voyait voler entre les toits des maisons et réussit à la poursuivre pendant un moment. Puis il la perdit. Mais en quelques minutes, le voleur volant revint. Rory savait qu'un butin aussi riche l'aurait attiré. Cette fois, Lapie prit un leurre et Rory tenta à nouveau de la poursuivre, mais fut immédiatement bloqué par une voiture arrêtée au milieu de la route et la perdit encore de vue. 5 minutes plus tard, Lapie était déjà de retour. Mais cette fois, presque avant qu'elle n'ait pu voler 2 leurres de la table, Rory lui courait déjà après, aussi vite qu'il le pouvait. Maintenant, il la voyait très bien et ne la laisserait pas s'échapper. Il courut longtemps, en sueur dans l'air chaud, sous un soleil impitoyable, et finalement, il la vit s'enfoncer dans ce qui semblait être une sorte de bois. Rory connaissait cet endroit, on l'appelait la cachette du diable. Une petite île verte, au centre de la favela Morro do Fubá. Un territoire arraché à la forêt ces dernières années qui s'était rapidement rempli de maisons illégales et de cabanes. La cachette était un enchevêtrement d'arbres et de buissons qui semblait impénétrable. On ne voyait même pas un passage pour se faufiler entre les plantes. En raison de certaines croyances étranges, personne n'avait touché à ce bout de forêt. Les habitants des maisons environnantes, en effet, étaient effrayés par certains événements étranges qui s'étaient produits, au point de se convaincre que le diable en personne y vivait. Plus d'une fois, il était arrivé que des amulettes et des crucifix, placés aux fenêtres des vieux et des malades pour les protéger des esprits maléfiques, disparaissent mystérieusement. Ensuite, peut-être par pure coïncidence, ces pauvres gens mouraient la nuit suivante, et ainsi, les gens avaient commencé à se souvenir d'avoir remarqué un oiseau noir volant dedans et dehors de ce bosquet. Ils l'avaient vu près des maisons des malades, juste avant que les amulettes ne disparaissent. Ils ne savaient pas qu'il s'agissait simplement d'une pie voleuse, qui, pendant la période de reproduction, était irrésistiblement attirée par ces objets illuminés par le soleil. Cependant, ces plumes noires avaient certainement déclenché leur superstition. Ils commencèrent donc à dire qu'il devait s'agir du diable qui, pendant la journée, prenait l'apparence de cet oiseau pour voler à la recherche d'une victime à qui venir voler l'âme la nuit. En peu de temps, l'île verte devint ainsi la cachette du diable. Beaucoup transportaient les vieux et les malades dans d'autres banlieues éloignées, en sécurité chez des parents ou des amis. Et ceux qui ne pouvaient pas partir se protégeaient comme ils pouvaient. Peut-être simplement en clouant les amulettes et les crucifix au rebord des fenêtres. Rory n'a jamais cru aux superstitions, il sait que ce ne sont que des contes créés par des gens simples. Il ne croit ni au diable ni aux anges, il ne croit qu'en lui-même. Il ne croit même pas en Dieu, et a toujours essayé de se tenir loin de l'Église et de ses théories. Depuis son enfance, il a vu trop de choses qui n'allaient pas. Des enfants pauvres et exploités, parfois violentés par des prêtres que les gens de la favela appelaient des anges. Il n'avait que 5 ans, quand il perdit à jamais la capacité de croire en quelque religion que ce soit. Sa mère voulait l'envoyer aider Armando, le frère aîné de Raphaël, qui allait préparer l'église pour la messe le dimanche matin. Les deux frères, ayant grandi avec Rory, étaient les fils d'une amie de sa mère et vivaient dans une maison voisine de la leur. Rory ne voulait pas aller à l'église, car il préférait passer la journée avec ses amis. La mère d'Armando insistait aussi, poussée par les demandes du prêtre. Elle était très religieuse et tenait à faire tout ce qu'elle pouvait pour l'Église. Mais Roré continuait de refuser, même s'il se faisait battre par sa mère et son beau-père pour cela. Il résistait cependant et disait non. Il ne voulait pas y aller, car il savait que ce prêtre faisait des choses étranges à son ami Armando, dans la chambre derrière la sacristie, et il avait peur. Mais sa mère ne pouvait pas le croire. Que savait-il? Comment de telles idées lui venaient-elles en tête? N'avait-il pas honte de parler ainsi, d'un ange comme Don João Levados? Et elle le frappait encore pour le punir de ses mensonges obscènes, lui ordonnant de se taire. Selon elle, il inventait ses histoires juste parce qu'il était paresseux et voulait passer du temps avec ses amis voleurs. Mais ce n'était pas des mensonges, c'était Armando qui lui avait fait comprendre ce qui se passait à l'église le dimanche matin. Plus d'une fois, il avait fait allusion aux demandes étranges du prêtre, à la pièce où il l'emmenait, sans toutefois trouver la force de lui en dire davantage. Il rougissait, baissait les yeux et étouffait presque de honte. Et Roré savait que c'était vrai. Armando n'était pas aussi fort que lui. Il avait un bon cœur, il ne disait jamais non. Il continuait à aller dans cette église pour la préparer à la cérémonie du jour de fête. Mais Roré avait remarqué que son ami, autrefois toujours joyeux et prêt à raconter une blague amusante, était devenu de plus en plus silencieux et triste. Il avait perdu son sourire et ne parlait presque plus avec Roré, qui le voyait maigrir et s'éteindre de jour en jour. Deux mois plus tard, alors qu'Armando venait d'avoir 7 ans, la tragédie se produisit. On raconta que ce jour-là, l'enfant était allé à son rendez-vous habituel du dimanche, tôt le matin, comme le voulait le prêtre. Mais cette fois-ci, il avait emporté avec lui l'arme de son père, un pistolet de gros calibre. Car son père était un trafiquant de drogue très connu, un homme avec beaucoup de vie sur la conscience. Il avait l'arme dans un sac à dos, où sa mère mettait toujours quelque chose de bon à apporter au prêtre. En entrant pour la dernière fois dans la pièce derrière la sacristie, pendant que Don Levados s'asseyait comme toujours dans son fauteuil, Armando mit sa main tremblante dans le sac à dos et sortit le pistolet. Peut-être se fixèrent-ils en silence pendant un très long moment. 5 coups éclatèrent dans le corps du prêtre. Le premier à la tête, puis un dans chaque main, puis un dans le cœur. Peut-être qu'Armando avait fixé ce visage désormais méconnaissable avant de lui tirer le dernier coup, droit au milieu des boules. Immédiatement après, l'enfant se mit l'arme dans la bouche et la pointa vers le haut. Il avait vu son père le faire pour forcer un client à payer une dette. Il se tira la dernière balle restante dans le cerveau, le faisant éclater comme un nuage. Ils le trouvèrent affaissé au pied du prêtre, dans une mare de sang. Son visage avait disparu. Les gens, bouleversés, disaient que ce pauvre prêtre, cet ange, avait été massacré par un enfant du diable. La manière dont il l'avait tué, crucifié par ses 5 balles, était un signe clair de la folie diabolique de l'enfant, disait-il. Don Levados avait été fait asseoir sur le fauteuil, sans son habit cérémonial, et chose encore plus effrayante, avec le pantalon baissé, nu de la taille vers le bas. C'était censé être une cérémonie blasphématoire, pensée par cet enfant fou pour couvrir le prêtre de honte. Quand il l'avait trouvé, Armando tenait encore le pistolet dans sa main. Peut-être, avait pensé Roré, voulait-il se sentir protégé même là où il se trouvait maintenant. Un crime de cette nature devait être l'œuvre du diable, agissant à travers ce petit monstre. L'ingénuité du peuple qui croit au malin trouvera toujours un pécheur à blâmer. Cette fois, un enfant innocent, décrit par les gens comme possédé. Il demandait même à la mère de payer les funérailles du prêtre. Seule une cérémonie somptueuse pourrait expier les péchés de son fils et purifier la mémoire de ce saint homme de la honte. Depuis la mort d'Armando Roré, il n'a plus cru en aucune religion ni en aucun dieu. Il se fiait seulement à son groupe d'amis, qu'il avait tant de fois sauvé de la mort, de la prison, ou de faux anges comme ce prêtre. Aujourd'hui, il ne fait confiance qu'à ceux qu'il connaît depuis toujours et qui lui ont prouvé par leurs actes leur loyauté, tout comme son ami disparu. La seule fois où Roré avait aidé Armando à l'église, il se souvient qu'il lui avait ordonné de ne pas aller dans la pièce derrière la sacristie, pour aucune raison, menaçant même de le frapper s'il le faisait. C'était son seul moyen de le protéger. Finalement, la mère de l'enfant avait payé pour sauver l'âme de son fils de la condamnation du peuple. On racontait qu'elle avait déboursé une grosse somme. Maintenant, elle pouvait assister à la cérémonie, tout comme son bon mari. Naturellement, les funérailles du prêtre eurent lieu dans l'église où Armando s'était suicidé. Parmi les fidèles qui remplissaient l'église, beaucoup achetaient de la drogue auprès du père de l'enfant. Dans son sermon long et émouvant, le nouveau prêtre n'avait pas prononcé de mots de pardon. Au contraire, il avait dit qu'Armando et sa famille étaient condamnés par la même folie. Ainsi, personne n'acheta plus de drogue auprès du père, de peur d'être contaminé par le mal. Bientôt, la mère d'Armando mourut également. Selon les rumeurs, son mari l'avait tuée en l'étranglant. Il n'était pas clair si c'était à cause du tribut qu'elle avait payé à l'église ou parce qu'il la rendait responsable de tout, du malheur causé par leur fils et de la ruine qu'il avait apportée à leurs affaires. Quoi qu'il en soit, la femme eut des funérailles gratuites. Roré laissa ses souvenirs dans le passé, revenant à la réalité. Il devait réussir à pénétrer dans cette sorte de jungle, le repère du diable, et trouver la pie voleuse. Il se faufila avec peine à travers les plantes, arrachant feuilles et branches pour se frayer un chemin. Il sentait les buissons lui griffer les bras et les jambes, mais à mesure qu'il avançait, la végétation devenait moins dense et il pouvait marcher plus facilement. Pendant ce temps, il continuait à regarder vers le haut, à la recherche de la pie. Il l'avait vue sauter de branche en branche puis se poser sur un arbre qui se trouvait maintenant juste devant lui, au centre d'une clairière éclairée par le soleil. Cet arbre semblait beaucoup plus vieux que les autres, avec un tronc très haut et robuste. Roré vit l'oiseau arriver avec quelque chose dans le bec et se glisser dans une fissure dans le tronc. Puis il ressortit et s'envola à nouveau. Alors, il grimpa et atteignit facilement la fente ouverte dans l'écorce. Il se hissa avec les bras à quelques mètres du sol et réussit à regarder à l'intérieur du tronc. Ce qu'il vit le fit pousser un cri. L'oiseau avait accumulé un véritable trésor là-dedans, dans ce qui devait être son nid. Un butin vraiment impressionnant. Une montagne d'objets qui semblait à première vue être en or et en argent. Il prit dans sa main une bague grande, lourde et vraiment incroyable. Elle devait être en platine ou en or blanc et avait de nombreux diamants disposés en forme de cœur. C'était certainement le cadeau d'un voleur ou d'un trafiquant à quelque amante. Il y avait aussi des colliers et des boucles d'oreilles précieux, parmi lesquels il crut reconnaître celui volé à la touriste blonde la veille. Mais dans le nid se trouvaient également des amulettes et de petits crucifix en métal brillant, des objets en verre, des billes qu'il avait utilisées comme appât et des morceaux d'autres matériaux sans valeur. Roré sortit poignées d'objets, les laissant tomber au sol. Alors qu'il les attrapait, il réalisa que certains bijoux étaient faux, en plastique doré, mais cela n'avait pas d'importance. Une fois descendu de l'arbre, il retira son t-shirt trempé de sueur et y jeta tout ce trésor, même les choses sans aucune valeur. Séparant les objets précieux des autres, Roré alla les revendre au marché noir. Ils lui rapportèrent 5000 réaux. Une véritable fortune pour un garçon de 8 ans. Bien sûr, on avait essayé de l'arnaquer sur la valeur des marchandises, mais il s'y attendait déjà. Ces fonds, de toute façon, lui dureraient longtemps. Car il n'était pas du genre à s'enivrer ou à faire la fête avec ses amis, à se droguer avec de la colle ou d'autres vapeurs chimiques, crack ou cocaïne, comme tant d'autres le faisaient. Ces choses ne l'intéressaient pas. Lui, au contraire, rêvait de devenir assez riche pour acheter l'une de ces maisons blanches dans les quartiers chics, près de la mer. Avec l'argent gagné, la première chose qu'il fit fut d'aller voir sa mère et de lui donner 1000 réaux. Mais il regretta immédiatement de l'avoir fait. Il la trouva allongée sur le lit avec un homme. Il semblait ivre ou sous l'effet de quelque drogue. Elle prit l'argent sans rien dire, le compta, et puis, au lieu de le remercier, elle cria qu'il l'arnaquait, qu'il lui cachait sûrement combien d'autres argent. Elle connaissait bien son fils, elle criait. Alors l'homme avec elle, un prétendu oncle, l'un de ceux qui la payaient pour sa compagnie, se leva du lit et s'impliqua immédiatement dans l'affaire. Il avait les épaules larges, sentait l'alcool et la sueur, semblait hors de lui-même. Il se mit à gifler Roré, lui disant de dire où il avait caché les autres argents. Roré jura qu'il n'y en avait pas d'autres. Il dit qu'il les avait trouvés dans un sac laissé sur la table d'un restaurant. L'oncle, après l'avoir battu sous les yeux ennuyés de la mère, prit 1000 réaux des mains avec l'excuse de les mettre en sécurité, puis il poussa Roré à terre et s'échappa dans la rue. Bien sûr, il allait sûrement s'endormir ou chercher un vendeur de drogue. La mère alors recommença à crier, devenue folle pour avoir perdu 1000 réaux. « Combien d'argent caches-tu à ta pauvre mère ?»« Voleur, bâtard !» Roré la regarda sans même écouter ses insultes, presque sans l'entendre. Pendant ce temps, il fit un pacte avec lui-même ou peut-être avec le diable et jura qu'à partir de ce moment-là, il ne penserait plus aux autres, ne se laisserait plus guider par ses sentiments, car il ne faisait que lui causer des problèmes et le rendait faible. Ainsi, la bouche ensanglantée par les coups reçus, il quitta cette maison pour toujours, sans savoir que c'était la dernière fois qu'il voyait sa mère. Il rencontra Raphaël, dans une maison abandonnée près des ruines d'une église. Lui aussi avait l'habitude de fuir sa maison, et souvent ils l'avaient fait ensemble, lui Armando et Roré, lorsque leur père ou beau-père, ivre, les frappait sans raison, en leur criant qu'ils étaient des bâtards inutiles affamés. Raphaël et Armando étaient les seuls à tout savoir sur Roré. Mais maintenant, Raphaël était le seul à s'inquiéter pour lui, et l'aidait toujours. Il le fit encore cette fois-ci, en lui apportant de la nourriture et quelque chose pour se couvrir. Ainsi, il put passer la nuit là-bas. Le lendemain matin, il lui dit qu'il avait trouvé un endroit où il pourrait rester quelques jours. Un de ses amis, le barbier, pouvait l'héberger chez lui. Il le faisait toujours volontiers pour aider les enfants contraints de vivre dans la rue. Roré accepta, sachant qu'il pouvait faire confiance à Raphaël. C'était ce barbier qui avait encouragé Roré à s'enfuir après le vol à la touriste. Il vivait au-dessus de son magasin sur la place de l'artisanat et s'appelait Rodriguez Ferreira, pour les amis Rod. Un grand homme avec une grande barbe sombre. Roré l'avait vu souvent et ils étaient devenus un peu amis. Mais ils ne s'étaient jamais beaucoup parlé car il lui imposait le respect. En réalité, bien qu'il ait une voix profonde qui faisait vibrer l'air, Rodriguez était un homme bon qui aimait rire et faire des blagues malicieuses sur ses clients. Il était né en Espagne et s'était installé au Brésil il y a de nombreuses années, par amour, disait-il, sans jamais en dire plus. Il semblait vraiment être ami avec tout le monde dans la communauté, peut-être grâce à sa sympathie et à sa discrétion. Il savait qui était une bonne personne et qui était un criminel ou un trafiquant, qui avait beaucoup de maîtresses et qui souffrait d'amour, qui était criblé de dettes et qui était un assassin. Parce que pendant qu'il coupait les cheveux ou la barbe des hommes, il parlait, parfois trop, peut-être juste pour se vanter. Mais tous ses secrets, il tenait à le préciser, il ne les avait jamais révélés à personne. Il disait que l'on doit condamner le péché, non le pécheur. Raphaël le connaissait bien, car son propre père fréquentait ce magasin et l'emmenait toujours avec lui. C'est pourquoi il avait demandé à Rod d'aider Roré. Il savait que son ami n'aurait jamais demandé de l'aide à qui que ce soit autrement. Dans cette maison, pour la première fois, Rory se sentit en sécurité avec un adulte qui le traitait bien, sans rien attendre en retour. Sa mère n'avait jamais été bonne ni affectueuse envers lui. Elle voulait seulement qu'il aille voler toute la journée, et si jamais il revenait sans un peu d'argent, elle le battait. Ou bien, elle le faisait battre par l'un de ses nombreux oncles ivres ou drogués qu'elle ramenait à la maison. Un soir, alors qu'il discutait avec Rod et Raphaël, Rory eut une grande idée. « Quelle idée ?» demanda Raphaël, intrigué. « J'ai pensé que nous pourrions demander de l'aide à Lapi. Pour faire quoi ?» demanda le barbier. « Pour voler. Comment allons-nous faire ?» demanda Raphaël. « Nous pourrions l'entraîner, » répondit Rory résolument. « L'entraîner ?» dit Raphaël, peut-être sans comprendre le sens de ce mot. « Oui, nous pourrions lui apprendre à voler les touristes ici sur la place. Ainsi, elle le ferait à notre place. » Maintenant que son ami avait compris, il semblait très excité par cette idée. « Elle ne se fera pas remarquer, et surtout, elle peut s'envoler rapidement, sans se faire attraper par personne, » expliqua Rory. Raphaël le regarda bouche bée. Le barbier, lui, resta silencieux, les yeux baissés sur la table. Puis il dit, « Cela ne me semble pas être une bonne idée. » Et il le dit sérieusement, d'une voix préoccupée, comme s'il voulait immédiatement tempérer l'enthousiasme de Rory. « Non, petit, cette idée n'est pas bonne. » Il leva les yeux, fixa ceux de Rory, sombre et surpris, savoura un moment le silence et ajouta aussitôt, « Cette idée est tout simplement géniale. » Puis il éclata d'un rire puissant, tapant des deux mains sur les épaules de Rory. Le lendemain, les deux amis se rendirent à la décharge où Rory trouva exactement ce dont il avait besoin, un vieux mannequin, comme ceux utilisés dans les magasins de vêtements. Raphaël l'aida à y accrocher des billes de verre, des morceaux de métal et des bijoux faux trouvés dans le nid de Lapi. Ensuite, ils le placèrent dans la cuisine de Rod, près de la fenêtre, pour que Lapi puisse le voir. Ainsi, le jour suivant, Lapi commença à voler de plus en plus près de ce mannequin scintillant, tel un arbre de Noël. D'abord, elle se posa sur la rambarde du balcon, puis fit quelques sauts sur le sol. Rory et Raphaël l'observaient, cachés dans un coin de la pièce, sans faire de bruit. Lapi prit de plus en plus d'assurance et les jours suivants, elle entra par la fenêtre, commença à sauter sur le mannequin et à détacher les bijoux un par un. Pour mieux l'entraîner, Rory habilla le mannequin avec quelques vieux vêtements du barbier et glissa des objets dans les poches, de sorte qu'ils soient à peine visibles. Lapi devait apprendre à les retirer rapidement et s'envoler. Ils continuèrent ainsi pendant de nombreux jours. Il suffisait d'ouvrir la fenêtre et Lapi venait prendre quelque chose sur le mannequin. En quelques secondes, un battement d'aile, et elle était déjà loin. Mais Rory n'était pas satisfait. Il enfila les vêtements du mannequin et resta immobile, en attente. Quand l'oiseau se posait sur lui, il bougeait brusquement et le faisait fuir. Mais ces objets brillants étaient trop attirants pour Lapi, elle devait les avoir. Peu à peu, elle apprit à les retirer presque sans bruit. L'entraînement dura quelques semaines, puis Rory dit qu'il était temps de mettre à l'épreuve le voleur volant. Il fit disparaître toutes les appâts, et quand Lapi revint, elle semblait étonnée de ne rien trouver près de la fenêtre. Elle resta un moment sur la rambarde du balcon, puis commença à explorer la place et les gens qui la fréquentaient. Rory et Raphaël la surveillaient, admiratif de la vitesse à laquelle elle se lançait sur ses proies. Ce n'était certainement pas aussi facile que de dérober un mannequin en plastique, mais Lapi avait appris à le faire rapidement et avec délicatesse. Et surtout, Rory lui avait appris à voler aussi des pièces de monnaie et des billets. Pendant près de 2 mois, le système fonctionna à merveille. Lapi réussissait à réaliser au moins 2 coups chaque jour. Le butin devenait de plus en plus riche et Rory avait trouvé un endroit parfait pour le garder en sécurité. Juste sous le nid de la pie, en fait, caché parmi les racines de l'arbre, il y avait un trou profond, peut-être la tanière d'un animal. C'était assez grand pour contenir une boîte de cigares, à l'intérieur de laquelle Roré enfermait l'argent volé par la pie et celui qu'il gagnait en revendant les bijoux. Personne n'aurait pu imaginer qu'un tel trésor se trouvait dans un tel repaire. Tous ces vols alertèrent la police, qui tenta plusieurs fois de neutraliser cet oiseau qui dérangeait les touristes. Mais finalement, il suffit de payer aux agents ce qu'ils demandaient, 1000 reais par mois, et on les laissa tranquilles. Soudainement cependant, la pie cessa de se montrer. Roré craignait qu'on les tuait, il attendit quelques jours et puis, ne sachant pas où la chercher, il alla à son nid. C'est alors qu'il découvrit que le voleur volant avait trouvé une compagne et se préparait à fonder une famille. À partir de ce moment-là, pendant des mois, elle ne se montra plus, et ainsi, n'ayant plus de rentrée, ils dépensèrent une grande partie de l'argent accumulé. Puis un jour, la pie revint enfin sur la place. Mais rapidement, les policiers revinrent aussi et commencèrent à surveiller ses mouvements. Et un après-midi, comme le raconta le barbier, ils prirent un fusil dans la voiture et l'abattirent d'un seul coup. Il y avait eu beaucoup de plaintes des touristes, dirent-ils. Mais Roré savait que ce n'était pas vrai. Il l'avait tué juste parce qu'il ne pouvait plus payer le pot de vin de plus en plus élevé, exigé par le chef des policiers, un certain Rodolfo, un individu sans scrupules qui prenait aussi de l'argent des trafiquants. Ce fut vraiment un coup dur pour tous. Les deux amis s'étaient attachés à cet animal si intelligent. Mais même le barbier le prit mal. Pendant les pauses de travail, il aimait s'asseoir devant son magasin, avec un sandwich ou un café, pour observer le spectacle du jet voleur. Il était admiratif de l'habileté du petit Roré, qui avait réussi tout seul à lui apprendre comment voler les touristes. C'est lui qui lui donna ce surnom qu'il porte encore aujourd'hui, El Urasao, ou simplement Ura. En fait, Rodriguez aimait raconter des histoires à ses clients, et il commença souvent à répéter celle du petit Ura et du jet. Il la raconta pendant longtemps, et les clients, pensant que c'était une sorte de conte, lui demandaient ce que signifiait ce nom étrange, Ura. Le barbier expliquait alors que cela venait du mot espagnol Uraca, c'est-à-dire « jet voleur », adapté en portugais, tandis que « elle » en espagnol signifiait « le grand » et était utilisé pour les personnages importants. El Urasao signifiait donc plus ou moins « le grand voleur volant » et visait à souligner l'astuce de ce garçon, comparable seulement à celle du jet. Roré était recherché et rester dans cette maison représentait un risque. De plus, il ne voulait pas exploiter l'aide de Rodriguez et le mettre dans une position encore plus inconfortable. Ainsi, il agissait comme tant d'enfants des favelas qui sont abandonnés par leur famille. Il dormait où il le pouvait, parfois dans la rue, parfois plus chanceux dans une maison abandonnée. Il continuait à voler les touristes lorsque l'occasion se présentait, mais il devait être très prudent, car la police le surveillait de plus près, depuis la mort de la Gazza. Les revenus des vols aux touristes ne suffisaient pas à payer sa tête mise à prix. Ainsi, pour gagner plus d'argent, lui et Raphaël décidèrent de se lancer dans le trafic de drogue. Ils devinrent deux parmi les nombreux enfants que l'organisation engageait comme courriers de tout type. Les enfants sont agiles, vifs et doués pour se cacher dans les labyrinthes des favelas, ce qui en fait des candidats parfaits pour ce travail. De cette façon, Roré résolvait également le problème de sa tête mise à prix, car il était désormais automatiquement protégé par l'organisation qui versait une taxe pour chaque membre. Roré comprit rapidement qu'on gagnait mieux sa vie avec la drogue qu'avec les vols, et il commença à étudier les trafiquants pour comprendre les différents niveaux de carrière dans ce métier. Les garçons plus âgés que lui, de 10 à 13 ans, étaient simplement appelés « hommes ». Ils servaient de boucliers pour protéger le groupe et étaient également des trafiquants. Ceux-ci étaient les premiers à mourir en cas de confrontation avec d'autres groupes, qui luttaient toujours pour le contrôle du trafic dans les favelas. Ensuite, il y avait ceux de 14 ans et plus, appelés « oncles », qui s'occupaient de tout ce qui devait être fait dans l'organisation. Survivre au-delà de 20 ans dans ce milieu était un véritable miracle, et seuls les plus forts et les plus cruels y parvenaient, devenant alors les chefs des différents groupes. Ces chefs étaient appelés parrains, comme dans les films sur les mafiosi. Rory était rusé, et il montra rapidement ses compétences dans ses affaires. Il devint un ninho très respecté par ses compagnons. Mais cela ne lui suffisait pas. Il se lassa vite de faire le courrier. Il voulait progresser, devenir un revendeur et viser encore plus haut. Il connaissait maintenant tous les hommes du groupe qui contrôlaient son quartier. L'un d'eux, un revendeur obèse nommé Pelita, semblait vraiment peu intelligent et gardait beaucoup de poudre pour lui-même. Ainsi, Rory commença à voler une petite quantité de cocaïne du paquet qu'il lui apportait chaque semaine. Cet idiot ne vérifiait jamais le poids, il faisait aveuglément confiance. Pendant plusieurs semaines, le stratagème fonctionna sans problème, et Rory parvenait à revendre la drogue volée dans une autre favela. Mais un jour, alors qu'il prenait la quantité habituelle de poudre, le paquet lui échappa des mains. Il le ramassa immédiatement, mais le vent fort de ce jour-là emporta presque un tiers de la poudre en quelques secondes. Rory fut pris de panique. Puis, il pensa qu'il pourrait remplacer la poudre disparue par de la farine blanche. Il ne savait toujours pas avec quoi il coupait la cocaïne. Ainsi, Rory signa la fin du fournisseur et par la même occasion, celle du revendeur. Pelita remarqua en effet la supercherie et se présenta chez le fournisseur, surnommé le Marcio. Il tenait un pistolet, était drogué et voulait lui faire payer. Il n'avait pas envisagé qu'il aurait pu être trompé par quelqu'un d'autre, un ninho comme Rory. Dès que Pelita vit le Marcio, il lui tira trois coups de feu, mais ce dernier, avant de tomber, eut le temps de riposter et de le toucher à la tête. Le lendemain, Rory trouva leur cadavre dans l'entrée de la maison. Il était venu prendre les paquets à livrer à divers revendeurs. Il n'hésita pas et demanda à Raphaël de l'aider à faire disparaître les cadavres. Cette nuit-là, ils les chargèrent un par un dans une brouette, les couvrirent de terre, de branches et de mauvaises herbes et les transportèrent jusqu'au repaire du diable, qui heureusement était très proche de la maison. Ils creusèrent une petite fosse et les y jetèrent. Rory et Raphaël s'installèrent dans la maison du Marcio, se faisant passer pour ses assistants. Ils avaient découvert l'argent du fournisseur caché dans la maison. Une montagne d'argent. Avec cela, Rory pensait pouvoir payer la première fourniture de drogue. Les bénéfices tirés de la vente de cocaïne serviraient à payer les futures livraisons, et ainsi de suite. Rory était encore jeune, mais il réfléchissait comme un adulte et avait les idées claires. Il voulait devenir le nouveau fournisseur du quartier. Au début, il craignait que quelqu'un de l'organisation ne vienne à la recherche de Marcio. Mais personne ne vint jamais le chercher. Ce qui importait à eux, c'était que la cocaïne soit distribuée et que les parts des chefs arrivent régulièrement. Tout se passait bien, et les affaires augmentaient rapidement, car Rory avait agrandi le nombre de revendeurs en engageant son groupe d'amis. Ensuite, il pensa à impliquer l'agent Rodolfo, le chef de la police à l'époque du G-voleur. Il le paya pour obtenir la liberté de mouvement et la protection dans ce petit territoire, ainsi que pour éliminer le problème des revendeurs rivaux que les policiers arrêtaient un par un. Bien sûr, le montant du pot de vin était proportionné au service rendu. Ainsi, le territoire qu'il parvenait à contrôler s'agrandissait de plus en plus. Il commença également à prendre contact avec de plus gros fournisseurs liés à des groupes très dangereux. Mais tant qu'il recevait des paiements réguliers, il restait tranquille, en quelque sorte. Hura continua ainsi pendant quelques années, faisant de l'argent d'une manière relativement tranquille. Son empire commercial grandissait, tout comme son pouvoir, qui chaque année devenait plus grand. Les armes commencèrent également à jouer un rôle de plus en plus important dans sa vie. Il apprit à les utiliser avec l'aide de l'agent Rodolfo, qui l'emmenait tirer loin de la favela, parmi les tombes d'un cimetière abandonné. Roré montra qu'il était également habile avec un pistolet, réussissant à tirer avec précision en utilisant ses deux mains. Raphaël était son bras droit, toujours à ses côtés. Ils se faisaient confiance comme des frères. Mais un jour, peu avant le 16e anniversaire de son ami, le destin décida de les séparer pour toujours. Raphaël fut tué par le groupe qui contrôlait le quartier de Villa do Mineiros, près de la zone ouest de Rio. Roré était également dans leur ligne de mire, car son succès gênait évidemment beaucoup de monde. Empoisonné par la rage de la perte de son unique ami restant et se sentant pour la première fois seul et en danger, Roré s'enferma chez lui pendant quelques jours, cherchant un moyen de se venger. Il décida de proposer une fausse paix au chef des Domineiros, appelé Minos par tous. Il se rappela de l'histoire du cheval de Troie que le barbier Rodriguez lui avait raconté des années auparavant. Il décida donc de sceller ce pacte de paix en offrant à Minos 12 bouteilles d'un bourbon de contrebande de grande qualité. Un de ses gars, qui surveillait la maison du parrain avec des jumelles, le prévint au bon moment par radio. Roré et deux de ses hommes entrèrent dans la maison alors que le chef, ses sbires et ses gardes du corps étaient complètement ivres. Ils les tuèrent tous sans pitié. Roré tira sur Minos entre les yeux, en l'honneur de son ami Raphaël. Ainsi, ce quartier passa également sous son contrôle. Roré était désormais connu de tous sous le nom d'El Urasao. Avec le temps, son pouvoir s'était étendu à toutes les zones avoisinantes, des favelas Joaquim Martins, Clovis do, Domineiros, Orlando Lete, Antonina, Barão jusqu'à la favela Fuba. Dans toutes ces communautés, du sud au nord, de l'est à l'ouest, le règne d'Urasao avait été proclamé. Mais bientôt, le calme prit fin. Les escadrons de la mort arrivèrent. Ils le cherchaient parce qu'il avait également pris sous son contrôle la favela Praça Orlando Bonfim Jr., à l'extrême ouest. Ce territoire n'était pas comme les autres, pour une raison simple. Il comprenait l'un des rares ports stratégiques de Rio, par lequel arrivait toute la poudre blanche destinée à la ville. Roré avait fait un coup audacieux, affrontant une véritable bataille où beaucoup de ses hommes avaient perdu la vie. Mais il avait finalement triomphé et pouvait contrôler un point névralgique du trafic à l'ouest de Rio. Il n'avait plus besoin de traiter avec des intermédiaires. C'était lui qui vendait la matière première au chef des favelas voisines. Pourtant, la bataille qu'il avait menée n'était que le début de la guerre, car il avait pris ce royaume à des gens bien plus dangereux et impitoyables que lui, des personnes qui ne plaisantaient pas du tout. Le jeune Urasao s'était attiré trop d'ennemis et risquait de perdre complètement le contrôle de ses favelas. On disait que sa vie ne durerait sûrement pas longtemps. Cette idée se répandit rapidement comme une superstition parmi les habitants des différentes communautés qui le considéraient maintenant comme un bienfaiteur, une sorte de saint. Car Urasao dépensait beaucoup de sa fortune pour les aider. Avec son argent, il avait rénové des écoles en ruine, construit des installations hydrauliques et électriques et résolu de nombreux problèmes liés aux eaux usées. En échange, il avait obtenu le soutien de la population qui le protégeait. Pourtant, le véritable but profond de ses actions était lié à des sentiments cachés qu'il ne montrait jamais à personne. Pour lui, montrer ses sentiments signifiait paraître faible. Des années auparavant, il s'était promis de ne plus jamais le faire, et jusqu'à présent, il avait toujours respecté ce pacte secret avec lui-même. Les chefs invisibles Retranchées dans leurs immenses villas blanches surplombant la mer, ces villas que Rory avait toujours rêvé d'avoir depuis qu'il était enfant, avaient conclu un pacte pour l'éliminer. Au début, Rory n'avait pas compris à qui il volait réellement le territoire du port. Mais il découvrit bientôt qu'il avait mis les mains dans les affaires des criminels les plus dangereux. Ceux sans nom, insoupçonnables, vêtus de vêtements italiens élégants, dirigeant leur trafic depuis des bureaux luxueux au centre de la ville. Ils ne se salissaient jamais les mains, payaient des tueurs mercenaires toujours à la recherche de contrats lucratifs. Les escadrons de la mort. Les joueurs de flûte jouant la musique magique de l'argent facile, attirant toutes sortes de personnes en quête d'un avenir meilleur. Cette musique parvenait aux oreilles éloignées de ces favelas, faisant de Luraçao l'un des hommes les plus recherchés par les mercenaires brésiliens. 10 000 reais, c'était la prime qui pesait sur sa tête. Pas mal pour un chef de seulement 22 ans. Rory parvint à éviter les attentats organisés par ces tueurs méticuleux, grâce à sa ruse. Survivre aussi longtemps semblait magique pour les gens des favelas. Une capacité presque miraculeuse, au point que beaucoup commencèrent même à l'appeler « El Santuraçao ».
Et c'est...
Il tint bon pendant encore 2 ans, mais presque chaque jour, désormais, un de ses garçons était abattu en plein jour dans les favelas les plus éloignées, et ses pertes créaient de dangereuses brèches dans le filet de sécurité qui l'entourait. Le groupe qui avait conclu cet accord pour l'éliminer était bien plus nombreux que lui, avec des montagnes d'armes et d'argent. Leur plan semblait fonctionner. Ils allaient bientôt l'attraper. Après une énième embuscade où 4 hommes périrent, enfermés dans sa forteresse, Hura décida de fuir. Il laisserait tout entre les mains de son nouveau bras droit, sans révéler ses véritables intentions. Son trésor secret, celui qu'il avait enterré dans une vieille boîte à cigares dans le repaire du diable, s'élevait à 50 000 reais. Cet argent symbolisait son salut, la possibilité de recommencer une nouvelle vie. Depuis son enfance, il rêvait de faire de l'argent et de vivre un jour dans une villa en bord de mer. Mais en grandissant, son envie de partir loin de Rio, loin des favelas, ne faisait que croître. Il écoutait les histoires du barbier Rodriguez. De temps en temps, il parlait d'un endroit qu'il appelait paradis. Un lieu où l'argent coulait à flot, où tout était propre et élégant, merveilleusement ordonné et sûr. Un endroit où il n'y avait pas de danger des escadrons de la mort. À l'époque, il ne connaissait pas encore le vrai nom de ce paradis, mais maintenant, oui, c'était là qu'il voulait aller. Tout était organisé. Un passeport flambant neuf, un billet d'avion et un visa valide pour 1 mois. Il arriva à l'aéroport de nuit, en cachette, escorté par les motos de ses hommes. Le voyage se déroula sans encombre. En chemin, il fixa longuement la destination inscrite sur le billet d'avion qu'il tenait fermement entre ses mains. Il lut ce nom suisse, y projetant tant d'espoir qu'il se sentit euphorique.